RFI, 9h30 à Paris, 7h30 à Dakar et en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Vincent Dublange, la fête du sacrifice célébrée au Sénégal ce samedi.
L'Aïd ou Tabaski, et RFI était avec les derniers acheteurs de moutons hier à Dakar. Reportage dans une minute. On vous raconte aussi cette annonce venue des réseaux de communication de Wagner, le groupe paramilitaire russe qui quitte le Mali, remplacé par Africa Corps, cornaqué par Moscou. L'alerte de l'ONU, il va falloir vite trouver de l'argent pour aider des millions et des millions d'habitants du Sahel à manger, tout simplement. Un mois sans voix au Niger, trois journalistes de la radio Sahara FM, toujours gardés à vue sans qu'aucune procédure judiciaire ne soit lancée. Le journal des sports également, rendez-vous dans 10 minutes. Mais d'abord, dans certains pays, l'Aïd, la Tabaski, c'était hier. Mais dans d'autres, comme au Sénégal, c'est aujourd'hui qu'est célébrée la plus importante des fêtes musulmanes de l'année, l'occasion de se retrouver en famille, de sacrifier un mouton qui est ensuite mangé collectivement. Certains fidèles musulmans s'y sont pris à l'avance pour acheter le mouton, mais pour d'autres, c'est un peu de dernière minute. Ils espèrent tout de même trouver une belle bête et pour pas cher. Gwendal Lavina les a rencontrés hier après-midi à Dakar.
À côté du rond-point de Ngor, sous une tente, une vingtaine de moutons tout juste lavés attend encore d'être achetés. À la manœuvre, Moussa Gueye, qui avait une soixantaine de bêtes à vendre, il assure que les clients ont fait plus attention au prix que les autres années et demandé des moutons plus petits.
Ça bouge pas trop comme avant. C'est un problème d'argent peut-être. Donc comme le monde est un peu paralysé, donc tu vois, donc problème d'économie, peut-être changement de gouvernement. Les moutons de 300 000, 500 000, il y a beaucoup dans le marché, hein. Mais les petits moutons 200, 150, 250, les gens achètent ce genre de moutons, quoi. On est en train de négocier avec les clients, donc on espère vendre tous les bêtes.
Mais les acheteurs se font rares. Ce client a été prudent et vient récupérer un mouton acheté la semaine dernière.
Achat de dernière minute, des fois ça peut être bien parce que quand ils n'ont pas vendu leur mouton, bah ils baissent le prix, forcément. Mais moi j'ai préféré m'y prendre à l'avance et comme ça au moins j'étais déjà fait, quoi.
Rencontré sur un terrain vague, transformé en bergerie, cet homme a joué la montre et ne le regrette pas.
Ça se passe tout le temps comme ça parce que les derniers moments, tu as l'occasion d'avoir un bon mouton à un bas prix. J'ai ramassé là. Il me l'a fait à un très 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 bon prix, vraiment. Il est beau, les enfants vont être contents, madame va être contente et puis voilà, on va manger de la bonne viande.
Pendant que le mouton est hissé dans sa voiture, il accepte de nous donner ses astuces.
Il faut dialoguer, il faut être souple, gentil et convaincant et puis voilà, ça marche, à tous les coups.
Des conseils à appliquer dès l'année prochaine en s'entraînant d'ici là. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
On va essayer de retenir ces conseils du bon achat et de la bonne négociation à Dakar. Merci Gwendal. Dakar où il est 7h quasiment 33 minutes, même heure à Bamako. Avec cette libération, c'était jeudi, du secrétaire général du parti Convergence pour la démocratie, CODEM. On l'a appris hier, Alassane Abba avait été arrêté le 8 mai à son domicile bamakois par des hommes armés. Plusieurs partis et organisations avaient dénoncé une arrestation extrajudiciaire. Alassane Abba est connu pour ses prises de position tranchées contre la junte. Avant son arrestation, il réclamait notamment un retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Plus de Wagner, mais toujours des paramilitaires. Africa Corps remplace officiellement le groupe privé fondé par le défunt Evgeny Prigogine. Annonce du groupe Wagner lui-même, pas confirmée à Bamako, mais il faut dire que la junte ne reconnaît la présence que d'instructeurs russes. Africa Corps, qui est une structure complètement sous contrôle du ministère russe de la Défense. Les explications, plus de détails avec Serge Daniel.
À Bamako, dans les milieux officiels, aucune des sources contactées par nos soins ne confirme ou n'infirme le départ annoncé des mercenaires russes du groupe Wagner. On le sait, la junte malienne a toujours nié la présence de ces mercenaires sur son territoire, préférant le terme de présence d'instructeurs russes. Côté Wagner, le départ du Mali de ses troupes est annoncé après un peu plus de 3 ans de présence. La relève sera assurée par une autre structure, Africa Corps. C'est une organisation également paramilitaire russe, assurant en Afrique la défense des intérêts extérieurs de la Russie. Composée d'ex-Wagner et surtout de nouvelles recrues, Africa Corps est plutôt étroitement contrôlée par le ministère russe de la Défense. C'est un peu un changement quand on se souvient que Wagner était fermement dirigé par Evgeny Prigogine, certes proche du Kremlin, mais forte tête avant sa mort dans un accident d'avion en 2023. En quittant le Mali, Wagner dresse un bilan très élogieux de sa présence. Autre son de cloche, si la présence de Wagner a permis de reprendre des mains des rebelles à la ville de Kidal, la sécurité n'est pas revenue sur une grande partie du territoire national. En plus, Wagner a été accusé des actions sur les populations civiles par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme.
Serge Daniel. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, le nord du Cameroun ou le nord-est du Nigeria. Près de 29 millions de personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire et de protection au Sahel. C'est ce qu'affirme le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU dans un rapport publié cette semaine. L'OCHA en appelle aux donateurs et prévient, des vies sont en jeu si les fonds nécessaires ne sont pas réunis, Magali Lagrange.
2 millions de réfugiés, 6 millions de déplacés internes au Sahel, chiffre en hausse de 6 et 20% depuis début 2024 selon OCHA. Des déplacements de population liés à différentes crises qui s'entremêlent, insécurité, pauvreté, instabilité politique, conséquences du changement climatique. Entre juin et août, OCHA estime à plus de 12 millions le nombre de personnes qui seront confrontées à l'insécurité alimentaire dans la région sahélienne. L'an dernier, la plupart des incidents sécuritaires se sont produits au Sahel central et dans le bassin du lac Tchad. Ils ont fait près de 17 000 morts et entraîné la fermeture d'environ un millier de centres de santé, de près de 10 000 écoles, dont plus de la moitié au Burkina Faso. Les conséquences des crises sahéliennes dépassent les frontières de cette région, alerte OCHA, et débordent vers les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, dont les régions nord accueillent 159 000 réfugiés. Pourtant, les fonds manquent pour faire face. Il faut plus de 4 milliards de dollars pour répondre aux besoins humanitaires urgents de plusieurs millions de Sahéliens. Le chef du bureau régional d'OCHA rappelle qu'il ne s'agit pas d'équilibrer un livre de comptes, mais de sauver des vies humaines.
Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale, 8h36 à Niamey et à Agadez. Cela fait un mois que les trois journalistes de Sahara FM au Niger sont en garde à vue. Ils avaient été arrêtés une première fois à Agadez, relâchés sur décision de justice et puis de nouveau interpellés quelques heures plus tard et transférés à Niamey, la capitale. On fait le point ce matin avec Eva Massi.
Arrêtés deux fois en quelques jours, les trois journalistes de Sahara FM, dont une femme, sont en garde à vue depuis bientôt un mois. Ce vendredi, Ibrahim Diallo, le promoteur d'Air Info Agadez et Sahara FM, a pu leur rendre visite.
Ils sont très bien traités à la gendarmerie, ils n'ont aucun problème, mais c'est seulement l'incertitude de ce qui va leur arriver. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été présentés devant le juge depuis Agadez. Aucun interrogatoire ne leur a été fait. C'est une longue attente. Un mois, 30 jours, c'est trop pour une interpellation, pour une garde à vue. Donc ils attendent dans l'anxiété, comme on le dit.
Les trois journalistes avaient relayé une information du site LSI Africa, selon laquelle la Russie et le Niger pourraient mettre fin à leur coopération sécuritaire. Le chef du bureau Afrique de la Fédération internationale des journalistes, Louis Tomasi, appelle les autorités de Niamey à libérer les trois journalistes sans condition.
Il s'agit de harcèlement et d'intimidation. Ils cherchent à envoyer un signal à tous les autres journalistes. Même certains journalistes que nous connaissons évitent de nous envoyer des informations impliquant directement le régime. Nous appelons donc les autorités à respecter les libertés fondamentales.
L'association nigérienne de lutte contre la corruption a elle aussi dénoncé l'arrestation de Hamid Mahmoud, Massaouda Jaharou et Mahaman Sani en appelant à leur libération.
Eva Massi du service Afrique de Radio France Internationale. Du gaz lacrymogène hier à Lomé au Togo, situation assez tendue dans la capitale. Des journalistes ont été brièvement interpellés. Certains confrères, notamment de TV5, mais pas que, ont été contraints d'effacer les images qu'ils avaient tournées. Il y avait un important dispositif de sécurité. En fait, des manifestants sont descendus dans les rues de Lomé pour dénoncer des arrestations ciblées, selon eux, la hausse du prix de l'électricité aussi. Et puis, ils pointaient du doigt la réforme constitutionnelle qui a renforcé le pouvoir de Fornia Singbe, en quelque sorte, en faisant le chef de gouvernement, président du Conseil, sans limitation donc du nombre de mandats désormais. En Côte d'Ivoire, le patron de la jeunesse rurale du PDCI-RDA, en détention provisoire. C'est en tout cas ce qu'affirme son avocat. Pas de confirmation judiciaire à l'heure où on parle. L'innocent Yaoun Guessant serait au pôle judiciaire d'Abidjan, inculpé dans le cadre d'une information judiciaire ouverte depuis 5 ans, notamment pour des faits d'actes de terrorisme, de complot, de participation à un mouvement insurrectionnel dans le cadre de la crise électorale de 2020. C'est toujours ce que dit son avocat. Ni la direction du PDCI, ni le parquet d'Abidjan n'ont pour l'heure répondu à nos sollicitations. On va démêler, ou tenter de démêler, si vous le voulez bien, maintenant dans ce journal, les chevaux des négos au Congo. Les négociations sur le conflit dans l'est de la RDC autour de la résurgence et de l'avancée de la FCM-23. Le mouvement contrôle plusieurs zones des territoires du nord et du sud Kivu, dont ces deux grandes villes que sont Goma et Bukavu. La FCM-23 est directement appuyée par le Rwanda, d'après de multiples rapports d'experts de l'ONU, entre autres. Pour tenter de trouver un cessez-le-feu, d'abord, puis une paix durable, il y a eu de nombreuses tentatives diplomatiques. Les deux dernières en date, à Doha, au Qatar, entre délégués du pouvoir de Kinshasa et représentants du M23. Selon nos informations, on vous les donnait dès jeudi soir, les délégations des autorités congolaises et du M23 sont rentrées à la maison avec une proposition de la médiation qatarienne, mais on est encore loin, toujours selon nos sources, d'un accord. L'autre processus, c'est celui des discussions directes entre la RDC et le Rwanda, et c'est Washington qui est cette fois à la manœuvre. Il y a eu une brusque accélération en avril, typique finalement de la politique façon Trump, mais où en est-on aujourd'hui, Patient Ligaudy?
Depuis le 25 avril, date de la signature de la déclaration de principe à Washington, les choses avancent mais prudemment. Un premier projet d'accord ou draft avait été rédigé en s'appuyant sur les bases des négociations menées à Luanda sous médiation angolaise. À cela se sont ajoutées des contributions nouvelles issues des attentes de Kinshasa et de Kigali. Aujourd'hui, c'est un deuxième document de travail, une version révisée qui circule entre les parties. Ce texte devrait servir de base aux prochaines discussions. Selon nos informations, des délégations techniques congolaises et rwandaises sont attendues à Washington la semaine prochaine. Objectif, défendre leurs positions respectives avant d'envisager une rencontre formelle entre les ministres des Affaires étrangères. Mais dans la région, la prudence reste de mise. Après les échecs passés, plusieurs diplomates insistent, il ne faut pas se précipiter. Il faut, je cite, aller au fond de choses, consulter tous les acteurs et aboutir à un accord qui tienne dans le temps. Un autre diplomate occidental en poste à Kinshasa ajoute que Washington doit aussi accompagner les dynamiques locales et sous-régionales déjà en cours. Pour lui, il faut éviter que ce processus ne soit perçu comme un schéma imposé de l'extérieur.
Merci, Patient Ligaudy du service Afrique des RFI. Je termine avec un petit mot de ce rapport de l'ONU qui accuse le Maroc de violer les droits des habitants du Sahara occidental. Un document qui pointe des déplacements forcés de Sahraouis sur la côte atlantique, des maisons détruites, incendiées pour laisser place à des projets touristiques, énergétiques. Rabat dément et parle de politisation, je cite, des instruments onusiens. Les détails sur l'application RFI.
Merci Vincent Dublanche, bonne journée à vous.
Bonne journée.